Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Cette semaine, les Good Gone sont en garde partagée et très heureux de voguer entre plusieurs univers artistiques dont ils ont le secret. Munis de leur besace, ils parcourent les salles d'exposition, de spectacles et de concerts pour faire entendre la voix des acteurs qui travaillent chaque jour pour nous faire rire, rêver, réfléchir et bien davantage. Au programme cette semaine, et les enfants seront bien gardés. De et avec Ségolène Stock à l'affiche de la Comédie Odéon jusqu'au 2 avril. Le reflet du cinéma latino-américain avec Guillaume et l'actualité de l'épicerie moderne. Gaël nous conviera au réverbère et derrière l'objectif de William Klein. Et bien entendu, nous terminerons par nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Et tout de suite, nous débutons avec un sujet théâtre et une pièce écrite et jouée par Ségolène Stock. J'ai rencontré le trio de comédiens composé de Virginie Haro, Ségolène Stock et Johan Genin à la sortie de scène hier soir. Les enfants seront bien gardés. C'est la Comédie Odéon du 22 mars au 2 avril prochain. C'est une reprise puisque vous avez déjà joué à la Comédie Odéon. Ségolène Stock, c'est vous qui avez écrit cette pièce et vous jouez aussi dedans.
Eh bien écoutez, ça fait... 2 ans voilà, qu'elle doit être écrite, qu'on a commencé à la tourner. Et puis bon, ben, Covid, confinement, fermeture des théâtres et tout ça oblige. On reprend surtout cette année en fait, voilà, avec une vraie programmation.
En quelques mots, Ségolène, vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'y passe ?
Eh bien, c'est l'histoire d'un couple qui se sépare. Bon, jusqu'ici, rien de très original. Sauf que la maman... parce que c'est une famille en fait, donc la maman décide de partir, enfin tombe amoureuse de l'ami que les parents, enfin qu'elle a en commun, donc avec son mari, voilà. Et bon bah là évidemment ça va être une grosse source de problèmes puisque donc elle se découvre lesbienne. C'est pas juste une séparation, ça voilà, ça soulève d'autres soucis puisqu'il y a voilà, les grands-parents vont s'en mêler, les enfants aussi. Voilà, l'homosexualité va soulever quelques petits problèmes, l'amitié, voilà, une espèce de trahison. Là on est au summum de la trahison pour ce monsieur qui va s'en prendre plein la figure.
Vous êtes 3 sur scène, vous jouez absolument tous les rôles.
C'est un des grands plaisirs qu'on a de jouer la pièce, c'est la vitesse avec laquelle on s'amuse à changer de personnage. Ça part par des petits accessoires, une casquette, une position, voilà, un changement de voix. Et puis c'est nourri par beaucoup d'amusement en répète aussi quand on l'a créé. Parce que forcément, bah, on est passé par plein de moments loufoques, drôles. On a même, j'ai même joué un enfant dans l'appartement de Ségo et Bruno, le metteur en scène. Où, voilà, pendant 3 heures, j'étais à jouer avec des jouets.
Vous jouez même la maman aussi, qui intervient à la fin, à la toute fin de la pièce.
Ouais, exactement.
Un joli rôle de composition également.
Exactement. Et vraiment, je tiens à dire qu'elle est vraiment basée sur... aucune personne existante, si ce n'est la maman de Ségo. Voilà.
Il y a aussi les parents du papa qui sont, plutôt de la Loire. Non, j'ai détecté un petit accent.
Oh, vous croyez ? Oui. Surtout, ils sont complètement, oui, complètement de la Loire. Bon, là, c'est pareil. Je me suis un petit peu inspirée de mes ex-beaux-parents. J'ai mis ma patte parce que, ils sont pas stéphanois à la base. J'ai chargé un petit peu les traits, mais parce qu'on reste sur une comédie.
Fouilla.
On est complètement là-dedans, vous voyez ? On est là-dedans. Pareil, il faut y venir voir. Hein.
Alors, la scène vraiment marquante, c'est finalement le moment où il y a une sorte de rébellion qui est menée par les enfants. J'aimerais bien vous entendre, puisque vous êtes cette comédienne qui incarne alors à la fois la petite amie de la maman, le petit garçon et la petite fille dans cette scène.
C'est ça, l'adolescente et son petit frère. Et à ce moment-là, ils décident de dire stop aux parents parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont brinque-ballés une semaine sur deux, mais ils ont la moitié de leurs affaires. Chez le papa, ça tourne pas comme chez maman. Chez maman, c'est moins gay que chez papa. Donc du coup, ils ont des revendications à faire tous les deux, et donc ils choisissent bien ce moment-là pour leur dire « Bon, maintenant, nous aussi, on en a marre, il faut arrêter de nous crier dessus parce que nous, on n'a rien fait, quoi. »
C'est une scène clé, finalement, que les enfants, ils ont leur rôle à jouer, finalement, dans une séparation.
Tout à fait. Puis quand papa et maman, effectivement, font n'importe quoi et que c'est, finalement, aux enfants de mettre un peu, taper le poing sur la table, voilà, on inverse les rôles, hein, finalement. Les parents se sentent, ils se font gueuler, finalement.
Alors, quand on écrit un texte comme ça, il y a un peu de vécu ?
Il y a surtout du vécu. Il y a surtout du vécu. Bon, ils sont pas jusque là parce que bon, on sait se tenir, hein, mais ça me semblait important. On avait envie que ce soit les enfants finalement parce qu'ils demandent jamais. Enfin voilà, ils s'adaptent, les enfants ont cette capacité à s'adapter assez facilement et finalement, quand les adultes sont trop égoïstes, ils s'en rendent pas compte. Donc il y a que les enfants pour les ramener un petit peu sur terre.
Alors c'est vrai que c'est une comédie, on s'amuse franchement, mais il y a aussi cette tendresse qui reste assez présente avec les deux personnages qui finalement restent amis.
Très joli, en tout cas nous on aime beaucoup le jouer parce que on peut en vouloir à l'autre pendant très longtemps parce qu'en fin de compte son ex-femme est tombée amoureuse d'elle, mais en fin de compte à la fin l'amitié elle est plus forte. Alors c'est pas tout le temps le cas, je pense que quand c'est arrivé dans la vie des fois il y a des amitiés qui peuvent se déchirer, mais en tout cas là ça reste une feel good comédie quoi. Donc l'idée c'est aussi de sortir grandi de l'histoire, de rester positif et de se dire qu'en fin de compte de toute façon elle dit une phrase que, en tout cas moi qui me touche chaque soir quand je la joue, elle dit de toute façon je serai parti tôt ou tard, que ce soit avec Vanda ou avec un autre ou une autre. Donc ça en fin de compte elle est là la phrase. Et quand on est quitté dans la vie, on a beau être triste très longtemps, il y a un moment donné on sait très bien que la personne elle était plus amoureuse et qu'elle voulait partir avec quelqu'un d'autre.
Ouais, mais finalement ça se termine plutôt bien puisque vous rencontrez votre Juliette, Roméo.
Mais je vous remercie, exactement. Et vous savez que j'ai quand même beaucoup insisté lors de l'écriture pour l'avoir. J'ai dit lors de questions que je finisse seul dans cette pièce. Donc j'ai quand même j'ai filé pas mal d'argent pour que l'auteur que je connais personnellement me dise bon ok d'accord, on va t'écrire une happy end avec une femme et qui a une très jolie perruque, je dois le dire.
Ouais. Une feel-good comédie, effectivement, c'est tout à fait ça. Vous jouez ici une petite quinzaine, même 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que la pièce va tourner ailleurs ? Quel est le devenir de cette pièce ?
Eh ben, on espère. Oui, c'est prévu. Tourner.
Pour l'instant, c'est difficile de se projeter aussi par rapport à tout ce qui se passe autour. Donc, ça a été compliqué. On devait faire Avignon, on était bien parti pour. Puis, bon, finalement, ça s'est arrêté comme ça. Donc, il faut relancer la machine.
De toute façon, c'est une comédie qui réunit tous les publics. On va dire, on peut venir de 7 à 77 ans.
Exactement. Même plus, hein. Bon, pas moins de 7 ans, mais jusqu'à 98, 102, oui, ils peuvent venir. Ouais. Ça parle un peu vite, peut-être, des fois. Mais...
C'est vrai que ça va très, très vite. Hein. Il faut être vraiment bien en forme. Hein. Et on voit bien que vous l'êtes. Et puis, on sent votre complicité aussi. Alors, ça déménage aussi beaucoup. Alors, j'en dis pas plus, mais il y a beaucoup de cartons.
C'est vrai que vous me tendez le micro, mais alors, manifestement, moi, je suis pas responsable de ça. Hein. Là, vous comprendrez bien que c'est le metteur en scène, mais visiblement, il a préféré partir plutôt que de s'expliquer. Non, ouais, c'était. En tout cas, je ne vais pas trahir sa pensée, mais ce qu'il voulait, lui, c'était. Voilà, pour lui, c'était symbolique. Une séparation, c'est des déménagements, c'est des cartons, c'est une vie dans des cartons. Donc, ça nous permettait en plus, sans dévoiler tout ce qui se passe, mais de créer des univers différents qui nous permettent de pouvoir exister dans chacun des univers qu'a créé Ségolène.
Johan Genin, vous êtes comédien et vous jouez également dans la pièce qui a lieu juste avant la comédie Odéon. On trouve dans Intramuros également, donc aujourd'hui vous avez joué 3 fois.
Oui, exactement. Merci beaucoup. Et ça se voit sur mon visage, mais manifestement, vous ne le verrez pas. Parce que c'est à la radio. De toute façon, je ne fais que des interviews radio. Hein. Quand je joue 3 fois, je ne vais sûrement pas m'aventurer devant un écran. Non, on a joué à 14h, parce que là, cette semaine, on a des représentations pour les scolaires. Donc ça, c'est super, parce qu'on présente le spectacle à des lycéens. Donc forcément, avec des réactions et des retours publics qui n'appartiennent qu'à eux. Et ça, c'est génial. Et puis à 19h, on finit en beauté la pièce qu'on a démarrée depuis le 12 octobre et qu'on termine le 2 avril. Et on est forcément très contents parce que le public a plus que répondu présent. Et puis c'est tous les soirs un vrai plaisir de jouer la pièce. Et donc je suis très, très, très gâté puisque après je retrouve mes potes pour jouer à 21h voilà, cette comédie.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois et pour votre bonne humeur et votre énergie. Du coup, alors je le rappelle, hein, et les enfants seront bien gardés du 22 mars au 2 avril prochain. Merci.
Merci beaucoup.
Pour suivre, Guillaume nous parle de cinéma latino-américain et de l'épicerie moderne, je crois savoir.
Oui, alors je voulais mettre en avant effectivement le festival des reflets du cinéma ibérique latino-américain qui se déroule en ce moment même du 16 au 29 mars au cinéma Alzola. D'abord parce que le cinéma Alzola, c'est sans doute la salle la plus belle de la région. Elle a été refaite, alors même si peut-être qu'ils vont déménager, on le sait, mais voilà. Mais c'est une salle avec un seul écran, mais c'est un lieu...
Cours Émile Zola, Villeurbanne,
Métro République. Et c'est vraiment une salle merveilleuse. Et donc ce festival, c'est vraiment voir des films que vous ne verrez nulle part ailleurs. C'est-à-dire souvent, c'est des films inédits, des reprises de films d'il y a quelques années qu'on n'a jamais vus en France, et puis toute une sélection. Donc il y a pas mal de comment, il y a évidemment des films en compétition, il y a un prix, mais voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Cette année, c'est l'Espagne qui est mis en avant, mais il y a d'autres films. Moi, j'ai vu très récemment un film colombien qui s'appelle La Roya, qui est un film magnifique avec des paysages incroyables dans la région d'Antioquia, dans la région qui fait du café. Et vraiment, voilà. C'est un dépaysement total. Et puis aussi, il y a des soirées musicales, hein, voilà. Et notamment, il va y avoir très prochainement, samedi 26 mars à 20h30, un groupe qui va jouer, un duo qui s'intitule Blues Esperanza, qui fait de la musique qu'on pourrait, comment dire, rapprocher d'Astor Piazzolla, puisqu'il y a un bandoneoniste, alors je ne sais pas si ça se dit, joueur de bandoneon,
ouais,
en tout cas.
C'est ça.
Et donc voilà, c'est vraiment des soirées qui sont voilà, dépaysantes, mais en même temps, on apprend plein de choses, on rencontre aussi toute la communauté
qui est importante,
hispanophone et lusophone de Lyon, et vraiment qui est très importante, et c'est un succès assez dingue. Moi, j'ai trouvé ça très étonnant. Le jour de l'ouverture, il y avait une queue. J'ai jamais vu une queue comme ça au cinéma pour l'ouverture. Bon, c'était un film avec Javier Bardem, donc il va être distribué, qui s'appelle El Patron. Il faut aussi signaler que tous les jours, il y a un petit journal qui paraît. Voilà, tous les jours, vous allez au cinéma, vous avez un journal avec 5-6 pages avec des articles concernant les films qui sont diffusés dans la journée, plus des jeux pour les enfants. Il est assez exceptionnel. Il y a d'autres festivals au Zola. Il y a le festival Cine au Clock, le festival britannique, qui est un peu plus tard, voilà. Mais voilà, celui-là, il est vraiment exceptionnel. Donc moi, je vous invite à aller
découvrir au Zola
tous les films. Voilà, il y en a plein. Et c'est
du 16 au 29 mars.
C'est du 16 au 29 mars avec la soirée de clôture le 29 mars avec un film qui s'intitule La première française, la soirée de clôture Nuestros Días Más Felices.
Tu souhaitais également faire un petit focus, un petit clin d'œil sur l'épicerie moderne.
Sur l'épicerie moderne,
avec un petit son à écouter peut-être.
Je suis allé deux fois ou trois fois ces derniers temps à l'épicerie moderne, et il y a quand même un retour des auditeurs dans les salles, et notamment à l'épicerie moderne. L'autre jour, le groupe Other Lives était quasi complet, et donc il y a toute une série d'artistes qui vont arriver à l'épicerie moderne qui sont vraiment très très intéressants. Donc je voulais peut-être faire un petit focus sur une artiste anglaise qui s'appelle Kate Lebon, qui est vraiment incroyable, une chanteuse galloise qui a une voix complètement dingue. Voilà, c'est à la fois groove, mais en même temps assez rock, donc c'est assez intéressant, un peu expérimental parfois, mais d'autres artistes qu'on a déjà vus à Lyon, Andy Chauffe notamment, le mardi 19 avril. Andy Chauffe, c'est un artiste incroyable de poésie, et la dernière fois qu'il était venu à Lyon, c'était je crois au Marché Gare, et il était venu avec un trio de clarinettistes, et donc là ça sera certainement une autre formation. Et puis surtout, je voulais insister, alors certes c'est un petit peu loin, mais il y a quelque chose dont on m'a parlé, je suis allé voir, j'étais subjugué par cette jeune fille, une Polonaise qui s'appelle Ania Rani, qui est une pianiste. Son concert, c'est le mardi 26 avril. C'est une pianiste. Alors, il est inscrit sur le site de l'épicerie moderne, piano atmosphérique. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une mode de ces pianistes qui ne chantent pas forcément.
I feel like home. Don't nothing is as was before. No words to say, no place to go. Just as cute for a girl. There is a place so close and fine. Extremely warm and cold outside. We've had a different wedding cruise. Just come back.
On se retrouve sur le plateau, Gaëlle. Cette semaine, tu nous fais partager ton intérêt pour la photographie de William Klein et le travail fantastique mené par les galeristes Catherine Derioz et Jacques Damez au Réverbère, je crois.
Exactement. L'exposition s'intitule « William Klein plus l'atelier » et c'est l'exposition du tempo. Le tempo lent et constructif d'une collaboration débutée en 91 entre le tandem Catherine Derioz, Jacques Damez de la galerie Le Réverbère et le photographe William Klein. Le tempo, c'est aussi celui rapide des photos tout en battement, en pulsation du notoire William Klein qui bénéficie d'une rétrospective au réverbère. La galerie poursuit ainsi les festivités pour ses 40 ans. William Klein, âgé de 93 ans, bientôt 94, le 19 avril prochain, c'est l'image en staccato. Sèche, brute, coup de poing, l'image, qu'elle soit photographique, filmique, rehaussée de peinture ou éditée en livre, est toujours percutante, incisive et hardie. C'est dans l'atelier de ce Mohamed Ali de la photo que Catherine Derrioz et Jacques Damez ont choisi les photos de cette rétrospective pensée depuis 3 ans. On imagine d'ailleurs combien cet editing a dû être délectable et mémorable. Le résultat ? 105 photos, célèbres et inédites, avec, Catherine Derrioz insiste, des formats quasiment jamais montrés, William Klein les gardant pour ses éditions de livres. L'exposition William Klein plus l'atelier célèbre ainsi le plus français des photographes américains autour de sections consacrées à New York, Moscou, Tokyo et, à l'étage de la galerie, la photo de mode dont le débridé William Klein, toujours à contre-courant, a dynamité les codes. Shooté, William Klein ne prend pas des photos, il shoot au sens propre comme au sens figuré. Cet aveu s'incarne dans une emblématique photo présente dans l'exposition et datée de 1955. Véritable uppercut visuel, elle s'intitule « Gun ». Deux enfants, deux pères Broadway, celui de gauche vous vise, vous shoot, vous méduse. Souffle coupé, crochet du droit, cadrage serré, aucune échappée possible. Vous êtes ciblé à bout portant par cet enfant plein de rage. L'autre garçon, à droite et de profil, est plus observateur. Nous sommes bien dans l'univers effronté de William Klein qui dira de ces deux garçons, c'est un double autoportrait. J'étais à la fois celui qui roule des mécaniques et le bon petit, timide, sur la droite. Les coulisses du cliché nous apprennent que le pistolet est un jouet, mais la cinglante énergie a fait son œuvre. William Klein n'est qu'oxymore. Sensibilité abrasive, tendresse décapante, poésie au papier de verre. Gun fait partie de la série New York appelée Journal photographique par William Klein. New York, sa ville natale, familière et inquiétante. Série pour laquelle il avait été mandaté par le magazine Vogue pour créer un livre. Mais avec sa street photographie d'un New York rendu rugueux, où flou, grain, décadrage, contraste et bougé signent la démarche plastique, les éditeurs font défaut. Seul Chris Marker le suit, alors directeur de la collection Petite Planète au Seuil. Il édite ce premier livre en 1956, intitulé « Life is good and good for you in New York ». L'opus inaugure plusieurs éditions de livres de photos pour lesquelles William Klein révolutionne la mise en page, opte pour un format monumental et propose une impression à fond perdu. Aussi, photos et art graphique se mêlent. Photographisme, le mot est alors lancé. Cette singulière rupture éditoriale est d'ailleurs couronnée par le prix Nadar en 1957. Le mélange des disciplines caractérise William Klein. Initialement peintre géométrique abstrait, après un passage d'ailleurs dans les ateliers d'André Lhote et de Fernand Léger, il rehaussera ensuite ses planches contact de peinture. Son approche des planches contact est en effet très spécifique. Nous ne sommes pas dans l'instant décisif, une photo isolée, mais dans la narration décisive de la planche contact. Avec ce dispositif, c'est l'articulation des images qui est louée. On se rapproche du montage cinématographique. Or, William Klein est également cinéaste et réalisateur de documentaires. Contact est le nom qu'il donne à sa série de mini-documentaires pour la chaîne Arte en 89. Contact sera repris pour ses célèbres Contact peints. Au réverbère, admirez longuement la densité et les jeux de matière de ses contacts peints, ainsi que le geste fougueux du William Klein, initialement peintre. William Klein plus l'atelier est, vous l'aurez saisi, un grand cri de liberté. Ce refus des injonctions se retrouve dans la scénographie proposée par Catherine Derrioz et Jacques Damez. La mise en scène des tirages est délibérément délivrée de la symétrie. Cette mise en espace s'affranchit des codes d'accrochage typiques pour offrir une libre déambulation, un voyage dans lequel les photos se racontent dans un ensemble. À noter, les tirages de William Klein sont signés Pierre-Louis Denis, également assisté de Tiffany Pascal. Avis aux acheteurs. Les tirages réalisés par Pierre-Louis Denis sont mentionnés PLD. William Klein et son tireur travaillent ensemble depuis 30 ans. Je vous avais dit que cette exposition était empreinte de multiples tempos. L'exposition Klein plus l'atelier est à voir jusqu'au 30 juillet 2022. Plus d'informations sur galerieleréverbère.com.
Merci beaucoup, Gaëlle. On termine notre émission avec nos Gédéons, les immanquables du moment. Guillaume, je crois que tu vas nous parler d'un certain Baptiste W. Hamon.
Tout à fait. Alors, Baptiste W. Hamon, moi je le connais depuis assez longtemps puisque va paraître le 8 avril son troisième album qui s'intitule « Jusqu'à la lumière ». Alors moi je l'avais rencontré dans les années 2014-2015 avec une chanson avec Alma Forêt en duo qui s'intitulait « Peut-être que nous serions heureux ». Donc c'était tout un programme, c'est une chanson, vous savez ce genre de chanson, on a l'impression que c'est des chansons très anciennes qu'on a toujours connues et en fait non, c'est des chansons qui ont été écrites récemment et ça fait presque partie du patrimoine. Alors Baptiste quand il écrit, évidemment au jeu des comparaisons on pourrait penser à Reggiani, Moustaki, Brel, donc évidemment c'est un peu lourd,
oui,
mais
quand même, hein,
c'est... Il est aussi comment dire, il a des inspirations aussi folk américaines, donc il aime beaucoup Ton Van Zandt et puis d'autres comme Philox ou Dylan bien sûr. Et donc sur cet album là, jusqu'à la lumière, justement l'album est peut-être plus lumineux que les précédents. Et il a fait appel à un grand réalisateur pour cet album puisque c'est John Parrish. Alors peut-être que le public ne connaît pas John Parrish, mais John Parrish c'est des centaines d'albums. Il a produit beaucoup d'albums, dont beaucoup d'albums de Pete Jarvey. Alors c'est pas du tout Pete Jarvey, hein, Baptiste Hamon, mais voilà, il y a vraiment une petite patte. En plus, John Parrish joue de pas mal d'instruments sur ce disque, de la batterie, de la basse. Et puis il y a d'autres invités, notamment au chœur. Il y a une artiste dont on a parlé ici, Lonnie. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment d'une beauté assez simple. C'est un disque donc qui sort le 8 avril. Alors j'aurais bien voulu vous faire écouter une de ma chanson préférée pour l'instant du disque qui s'intitule Les gens trompés, mais je ne peux pas vous la faire écouter parce que ce n'est pas sorti. On va écouter une chanson qui s'intitule Je m'abandonne à toi. Tout un programme aussi.
Je voudrais te revoir pour te dire tout bas des choses maladroites que l'on ne dit qu'une fois, mais te les dire à toi et t'ouvrir grand mon âme. Pour t'offrir enfin tout ce qu'il faudra. Les rires, la flamme, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Et nous connaissons depuis 100 ans déjà. Oui, nous dirons tout, nous ne faiblirons pas. Je me plierai à tes ordres, je serai fou de toi. Au doute, à la discorde, je dirai, souviens-toi. Les rires, la flamme, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Oh. Et nous vivrons heureux, contraint d'aucune loi, et j'ai l'ennui de toi, oui j'ai l'ennui de ça. Les rires, la flamme, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Oh. Les rires, la flamme, je m'abandonne à toi.
Poursuit nos Gédéons, on vient d'entendre un extrait de Baptiste W. Hamon. Gaëlle, qu'est-ce que tu as dans ta besace ? Je parlais de besace au début de notre émission.
Alors mon Gédéon de la semaine est le dernier album « Sans photo pour la liberté de la presse » avec ce 69e numéro « Reporters sans frontières » RSF. Fête les 30 ans de parution de cet album tout autant mythique que malheureusement nécessaire, puisqu'à la lecture du dernier baromètre RSF des journalistes tués depuis le début de l'année 2022, 19 ont disparu, dont 3 en Ukraine, et 362 journalistes sont emprisonnés dans le monde. Le grand photojournaliste Patrick Chauvel signe le dernier 100 photos pour la liberté de la presse. En 50 ans de carrière, il a couvert plus de 30 conflits ouverts. Depuis le Vietnam en 68, il a alors 18 ans, puis Cambodge, Érythrée, Liban, Iran, Salvador, Irlande du Nord, Bosnie-Herzégovine, Tchétchénie, Libye, Irak, Syrie, Afghanistan et actuellement l'Ukraine. 7 fois blessé ou détenu, comme en 75 au Liban, ou étant pris pour un espion israélien, il a dû être exfiltré par l'ambassade de France. C'est une grande histoire des conflits que Patrick Chauvel a couvert et couvre encore à l'âge de 72 ans. Selon Patrick Chauvel, la chance, c'est quand une opportunité rencontre le professionnalisme. Le photojournaliste sent quand il a une plaque. Une plaque, c'est-à-dire une bonne photo. Au-delà des 100 puissantes photos que Patrick Chauvel a choisies sur les 400 000 photos de sa production, l'album contient des interviews d'acteurs du monde du photojournalisme et des notices éclairant la genèse de certaines photos. Pour Patrick Chauvel, le photojournaliste prend, mais donne aussi, car il transmet. Le photojournaliste est une courroie de transmission. Aider les photojournalistes dans leur mission de courroie de transmission en achetant et en offrant l'album « 100 photos pour la liberté de la presse », seulement 9,90 € pour une grande cause.
Merci beaucoup Gaëlle. Bien, alors c'est à moi de terminer cette émission comme il se doit. Et moi j'ai envie de vous faire un petit conseil de lecture, mais pour une fois, eh bien, c'est pas moi qui le fais. C'est Morgane Lebrise de la librairie Adrienne, 70 rue de la Charité. On l'écoute. Alors, je suis à la librairie Adrienne et le coup de cœur de la libraire qui s'appelle
Morgane Lebrise.
Morgane Lebrise, qui est la fondatrice aussi de la librairie.
Tout à fait, exactement.
Bon, génial. Vient nous proposer, en fait, eh bien, son coup de cœur qui s'appelle Le Grand Vide. C'est vrai que la couverture bleu-blanc-rouge est attrayante avec une jeune femme. On a l'impression qu'elle vole.
Exactement. Et c'est un livre qui m'a énormément marqué. Donc c'est une bande dessinée écrite et dessinée par Léa Muravieck aux éditions 2024. Et c'est une histoire assez étonnante. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit dans un monde où, quand on ne dit pas le nom des gens, ils disparaissent, ils meurent. Et c'est hyper intéressant. Ça soulève des questions également actuelles. Et par exemple, les préconisations des médecins, ça va être d'aller en boîte de nuit, de se faire connaître, de parler de soi dans la rue pour ne pas être oublié. Et c'est hyper, hyper marquant. D'un côté, c'est drôle et de l'autre côté, c'est assez, assez marquant de voir ces gens qui peuvent disparaître du jour au lendemain parce qu'on ne parle pas assez d'eux.
Alors oui, en effet, parce qu'on voit ici, alors sur la couverture, qu'est-ce qu'on peut dire du graphisme aussi, qui est tout en bleu, blanc, rouge aussi. Exactement. C'est un parti pris graphique qui est très surprenant.
Exactement, et c'est, je trouve que ça met encore plus en exergue et en valeur le texte. C'est un graphisme qui est assez minimaliste, on va dire. Et vous avez en fait des planches entières sans texte où vous avez notre héroïne qui est dans sa ville, avec sur chaque building, on pourrait se croire à New York, le nom des gens. Et plus les gens sont riches, plus ils peuvent mettre leur nom sur les bâtiments, et donc plus ils ont de chances d'être connus. Et plus vous êtes connus, vous pouvez avoir la possibilité de devenir immortel un jour. Et c'est le but de tout un chacun dans ce monde.
Bien, oui, effectivement. Alors c'est dystopique, on va dire. Hein. On est quand même vraiment dans une dystopie et dans une façon finalement de voir la popularité, de parler finalement de gens populaires.
Exactement, c'est exactement ça. C'est une dystopie, mais ça résonne avec ce qu'on peut voir aujourd'hui, avec ce qui nous rend célèbres, qui est célèbre, pourquoi. Et l'héroïne, notamment dans cette bande dessinée, n'a pas de chance parce qu'elle porte le même nom et le même prénom qu'une star interplanétaire. Donc quand les gens pensent à son prénom, ils pensent à la star et pas à elle. Et donc ce qui fait qu'elle va devoir trouver des solutions pour exister, elle, de son côté. Et je trouve que ça résonne vraiment avec l'actualité ou avec des choses qu'on peut vivre aujourd'hui.
Ouais, c'est une belle métaphore. Merci beaucoup pour votre coup de cœur.
Je vous en prie.
Son conseil de lecture nous emmène dans un univers parallèle où, vous l'avez vu, hein, une bande dessinée tout à fait incroyable qui s'appelle Le Grand Vide, hein, aux éditions 2024. On a déjà évoqué cette très belle maison d'édition. Moi, je voulais juste revenir sur la librairie Adrienne. C'est un lieu absolument charmant, convivial, qui se trouve 70 rue de la Charité, à côté du lycée Récamier. Cette jeune femme qui est d'origine bretonne, a ouvert récemment avec une de ses amies cette librairie. On peut y boire un petit thé, venir y manger une pâtisserie et en plus découvrir des étagères bien remplies avec des libraires qui ont très envie de partager leur passion. Et ça, je ne résiste jamais à faire un petit clin d'œil à ces librairies avec une dimension également féministe quand même chez Adrienne, hein, puisque je vous le rappelle, hein, Adrienne, c'est le prénom de la première libraire qui ouvre une librairie donc à Paris en 1915 qui s'appelle Adrienne Monnier. Bref, c'est toujours bon de rappeler qu'il y avait aussi des femmes au début du XXe siècle qui l'âme de défendre le livre. Merci beaucoup et puis à la semaine prochaine.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.